au quotidien avec Denis Martin Chabot.
Bien, bonjour, 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 quatre fois bonjour, je vous dis toujours parce que c'est quatre fois mieux qu'un seul bonjour. Une grosse émission aujourd'hui, nous allons parler avec Régis Saint-Éloi qui est humoriste et entrepreneur culturel, celui qui transforme l'accès à la scène humoristique québécoise. On a aussi notre chronique sur les nouvelles du Canada français et il y a aussi Isabelle Falardeau qui est en chronique. Je ne sais pas si elle est au téléphone ce matin, on ne l'a pas au téléphone, donc ça arrive des fois qu'on oublie d'appeler les gens, mais c'est pas grave, qui vient nous faire une chronique aujourd'hui. Alors, c'est le 30 juillet aujourd'hui. C'est un petit peu la quelle-ième journée de l'année. Bien, j'ai ma petite feuille, elle s'est égarée, je vous le dirai tantôt. C'est pas plus important que ça. De toute façon, on sait très bien qu'on est encore à l'été puis qu'on a encore plusieurs jours avant l'arrivée du temps des fêtes. C'est toujours ma petite blague que je vous fais tous les matins, évidemment. C'est le temps de vous parler de la météo, puis pour une raison... Il n'y a pas à dire aujourd'hui, hein, je suis mêlé dans mes feuilles, elles sont là. Voilà, ça demeure chaud. En fait, il faudrait que je prenne une photo quand je commence l'émission. J'ai tous mes papiers éparpillés partout, puis je mets ça dans un certain ordre, et puis évidemment, je ne reconnais pas mon ordre par la suite. Alors, c'est pour ça que des fois, vous entendez des bruits de papier parce que je cherche les choses. Je les ai. Alors, ça va demeurer chaud aujourd'hui. Alors, j'aime bien l'idée, plus qu'hier, moins que demain. Non, ça va être moins qu'hier et moins que demain. C'est encore chaud, là, on vous le dit, c'est encore chaud, mais beaucoup moins que ça l'était hier. Puis demain, ben vraiment, je pense que le facteur... Notre ami Dex va aller prendre des vacances ailleurs. Ça va lui faire du bien, moins d'humidité, donc. Mais pour aujourd'hui, donc, il y a quelques averses. Risque d'un orage ce matin au Québec, surtout dans le sud. Ça sera plus tard, plus on va vers l'est, hein, plus c'est tard, ces pluies-là. On prévoit donc des ressentis autour de 30 degrés. C'est quand même moins pire que les 40 hein, qu'on a eu la semaine dernière et même les 35-36 en début de semaine. Il n'y a pas autant de ressentis dans le nord du Québec qu'il y en a dans le sud. Ça reste aussi chaud et généralement ensoleillé en Ontario avec des ressentis au-dessus des 30 degrés. Et là aussi, ça va changer dans les prochaines 24 heures. Le nord ontarien, région de Thunder Bay, il y a de la fumée, c'est plus frais. Et puis, ben, le reste du nord, ça reste aussi chaud, mais des ressentis moins élevés. Province maritime, ainsi que Saint-Jean, Terre-Neuve et Labrador, même chose qu'ici. Alors, eux, la pluie va arriver plus tard, en fin d'après-midi ou en fin de journée. C'est de la fumée au Manitoba et en Saskatchewan. Il fait 24. Imaginez-vous que ce matin, là, quand je regardais les températures, il faisait 5 degrés ce matin à Regina. Et on parlait de 10 degrés à Saskatoon quand même. Et l'Alberta, la Grande-Bretagne, généralement ensoleillée, ressentie au-dessus de 30. Ah, je pense que ma belle Isabelle Comdimiel est là.
Bonjour.
Bonjour. On parle de quoi aujourd'hui, Isabelle, à la chronique?
Je vais vous parler de quoi faire avec vos fines herbes pour bien les conserver parce que ça commence à être le temps de les cueillir là, si vous avez la chance d'avoir des fines herbes dans votre jardin.
Ouais, je dois dire que j'étais un petit peu négligent puis il a fait très, très, très chaud. Je regardais mon basilic, je me disais, ouais, je pense que je vais devoir me passer de basilic cet été.
Oh non.
Ah,
je
oui.
Vous écoutais parler de météo, là, puis je commence vraiment à me demander, mais quand est-ce qu'on va finalement avoir de la pluie? On dirait qu'on est rendu, dans le sud de la France.
Oui, ben, c'est censé. Censé avoir de la pluie aujourd'hui, puis en fait, on prévoyait même des précipitations, puis même des risques d'orages ce matin dans la région de Montréal, du moins dans le sud du Québec. Puis c'était couvert, mais je voyais pas ça non plus en sortant. C'est vrai, alors, en même temps qu'on a besoin de pluie, puis j'avoue que je me sens un petit peu coupable lorsque je sors le boyau d'arrosage pour mon jardin.
Ouais. Non, à un moment donné, on n'aura pas le choix.
Je l'ai fait. Alors, je l'ai fait. Puis là, je me disais, est-ce que le règlement municipal me permet de le faire? Mais ça a l'air que oui. C'est pas pour laver l'auto quand même. Et j'en ai pas de toute façon.
Et puis, si on le fait pas pour nos fines herbes, ben c'est les cultivateurs de fines herbes qui vont le faire pour leurs fines herbes qu'on leur achète. Donc, de toute façon, l'eau va être obligée de sortir du boyau de quelqu'un.
Tout à fait. Tout à fait. Ben écoute, je vais parler un peu de l'éphéméride d'aujourd'hui. La première assemblée législative des colonies des États-Unis, ça se réunit en Virginie, c'était en 1619 aujourd'hui. Cet événement donc, qui marque l'avènement là, de la démocratie représentative dans ce qui deviendra les États-Unis. Et mon Dieu, on dirait que ça a changé depuis.
Ben, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se retournent dans leur tombe parmi ceux qui étaient autour de la table.
Probablement, probablement. Jimmy Hoffa, en 1975, c'est le célèbre dirigeant syndical américain qui disparaît mystérieusement et c'est un des plus grands mystères non résolus de l'histoire. Ah, hein, quand même! Et 1863, c'était la naissance de Henry Ford. Henry Ford, qui a créé la Ford Company, mais hein, le modèle T, c'était le premier véhicule. Et Henry Ford, ce qu'il avait fait, alors les gens trouvent ça, c'est un petit peu intéressant comme façon de voir les choses, il se disait que les véhicules qu'il construisait étaient trop chers pour les gens qui les fabriquaient. Alors, il avait diminué les prix pour s'assurer que la voiture soit accessible aux personnes qui fabriquaient même les autos.
Hein, wow!
Ouais, c'est une anecdote que je trouvais intéressante parce que tu sais, il y avait ces visions, ces visionnaires hein, du monde des affaires à l'époque. Décès, en fait, non, aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de naissance de I'll be back, Arnold Schwarzenegger. I'll be back. Auteur autrichien états-unien, homme politique, ancien gouverneur de la Californie, I'll be back. J'arrête ça. Terminator. Mais il y avait une autre ligne qu'il disait qui me faisait bien rire, mais c'est tellement vulgaire, je ne peux pas le dire en onde. Alors, imaginez que ça contient le mot F. Ah, voilà. Et c'est le décès en 1888 d'Otto von Bismarck, hein, le chancelier allemand, architecte de l'unification allemande, qui a joué un rôle clé de l'Europe, de l'Empire allemand de 1871. Et 2007, décès d'Ingmar Bergman, réalisateur suédois, un des plus grands cinéastes de l'histoire, connu pour Le Septième Sceau, Écrit et Chuchotement. Citation. Ah oui, c'est la journée de l'amitié aujourd'hui. Ah, célébrons nos amis. C'est important, les amis, dans la vie. C'est aussi la journée mondiale contre la traite des humains. Puis je pense que je vais en parler après la pause. Je vais lire des extraits d'un texte fabuleux dans la presse ce matin parce que, ben oui, on a appris hier le décès de Foglia.
Eh oui.
Eh mon Dieu. Puis c'est fou. Je fais partie de ces gens qui découpaient dans le temps que c'était écrit hein, sur papier, la presse. Et je découpais la chronique. Puis je mettais ça sur le frigo pour la relire le soir en rentrant. les gens qui collaient les chroniques sur le frigo, je faisais ça moi aussi.
Mais c'est une autre époque, mais waouh!
Est-ce que c'est un personnage qui t'a marqué, toi, dans ta vie, Isabelle?
Beaucoup. Je faisais partie des gens qui achetaient, qui regardaient la presse. Je regardais la page, je pense que c'était A5 ou après, je me souviens plus du cahier. Je regardais, il y avait une chronique de Foglia, sinon j'achetais pas la presse.
Mais c'était le samedi, oui.
On était plusieurs à se dire dernièrement que ça nous aurait pris Foglia. On aurait aimé ça, avoir son regard tellement intelligent, mais critique sur ce qui se passait dernièrement.
Oui, j'aurais aimé ça savoir ce qu'il pensait de tout ce monde qu'on est devenu depuis la pandémie, puis les réseaux sociaux, puis Donald Trump.
Ouais.
Oh là 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 là. Ben écoute, nous, on se parle dans quelques minutes, on s'en va en musique.
Réveille-moi quand tu seras prête. Ensemble, on partira vers l'ouest. Si le monde explose, on s'en fera pas. Tant qu'on est toi et moi, toi et moi. Ça fait des mois que je cherche et je ne trouve pas des filles comme toi, je te jure, j'y croyais pas. Jusqu'à ce jour, c'est quand j'ai arrêté de chercher et que je pensais avoir fait le tour, que tu es apparu comme ça et je suis tombé en amour. Non, je vois l'avenir quand je regarde dans tes yeux. Est-ce que l'on deviendra un jour ces gens heureux? J'aurais tout donné pour te trouver un peu plus tôt dans ma vie. J'en ai assez de me réveiller si c'est pas toi dans mon lit. Appelle-moi quand tu seras prête. Ensemble on partira vers l'ouest. Si le monde explose, on s'en fera pas. Tant qu'on est toi et moi, toi et moi, toi et moi. Je veux que tu me rejoignes sous les sunsets. Qu'on vive le rêve, qu'on se fout du reste. Je te jure, si le monde explose, on s'en fera pas. Parce qu'on est toi et moi, toi et moi, toi et moi. Ça fait des mois queue t'embellit mes soirées. Et quand on frette sur le bord du quai, en parlant de nos futurs bébés, ça va peut-être vite, mais je m'en fous. Je me fous bien ce que le monde passe autour. À quoi ça sert de se retenir s'il y a de l'amour entre nous? Maintenant je vois l'avenir quand je regarde dans tes yeux. Est-ce que l'on deviendra un jour ces gens heureux? J'aurais tout donné pour te trouver un peu plus tôt dans ma vie. J'en ai assez de me réveiller si c'est pas toi dans mon lit. Appelle-moi quand tu seras prête. Ensemble on partira vers l'ouest. Si le monde explose, on s'en fera pas. Tant qu'on est toi et moi, toi et moi, toi et moi. Je veux que tu me rejoignes sous les sunsets. Qu'on vive le rêve, qu'on se fout du reste. Je te jure, si le monde explose, on s'en fera pas. Parce qu'on est toi et moi, toi et moi, toi et moi. Sombre qu'il pleut, je te promets que ce jour nous resterons courageux. Et s'il y a un jour où tout est sombre qu'il pleut, je te promets que ce jour nous resterons courageux. Et s'il y a un jour où tout est sombre qu'il pleut, je te promets que ce jour nous resterons courageux. Et s'il y a un jour où tout est sombre qu'il pleut, je te promets que ce jour nous resterons courageux.
Et c'était Gabriel Fredette, « Tant qu'on est toi et moi ».
Eh bien, évidemment, ce matin, on va donner un petit peu de place à la presse qui est en deuil de son plus célèbre chroniqueur qui, avec son inimitable style gouailleur, a fait le bonheur des lecteurs durant plus de 4 décennies. C'est un texte d'André Duchesne. Je vais en lire quelques extraits parce que c'est un long texte, je n'aurai pas le temps de tout le lire ce matin. Pierre Foglia, notre Foglia, l'homme qui parlait avec éloquence, émerveillement et poésie de sa fiancée comme des Jeux olympiques, de ses chats comme du Tour de France et de Saint-Armand, de littérature comme de cyclisme, de hockey, de vieillesse et de baseball, de tout et surtout de rien, est mort. Il s'est éteint à l'âge de 84 ans, des suites d'une longue maladie de le Parkinson. Il a reçu l'aide médicale à mourir alors qu'il était entouré de ses proches. La famille souhaite vivre son deuil dans l'intimité. Avec ces mots, Foglia avait, comme nul autre, fait naître des images dans nos esprits. Il était un projectionniste de l'âme. Explorant d'un bout à l'autre le spectre des émotions, il faisait rire, il faisait rager, pleurer, rêver et quoi encore. Il s'indignait aussi, remettait tout en question, questionnait et se questionnait. Mais il savait aussi informer, la mission première d'un journaliste. Il s'attirait bien des éloges, Foglia. Il avait ses admirateurs, il avait sa cour, mais il lui arrivait de viser directement la jugulaire, quitte à faire très mal. On pourrait en parler à la chanteuse Michèle Richard, qui a fait les frais de ses foudres. Si j'ai le temps, je vous lirai l'anecdote plus tard. D'aucuns, chez ses innombrables lecteurs, gardent en mémoire la trace d'une, voire plusieurs, de ses chroniques. Un des exemples les plus notoires est « Bonheur à tous », publié le samedi 6 novembre 1999, 2 jours après la mort de Robert Duguay, chroniqueur au sport de la presse, grand ami de Foglia. Robert Duguay avait été emporté par un cancer quelques jours avant son 59e anniversaire de naissance. Même si sa plume évoquait régulièrement sa mère, sa fiancée, ses enfants, Manuel et Aube, ou ses origines, Pierre Foglia distillait avec parcimonie les détails de sa vie personnelle. La publication en 2015 chez Édito de l'essai Foglia l'insolent de Marc-François Bernier, professeur titulaire du département de communication de l'Université d'Ottawa, permet d'y apporter un éclairage bénéfique. Cette synthèse admirative, dit Bernier, est le fruit d'une lecture de quelques 4300 chroniques publiées dans la presse. Foglia, donc, est né le 30 novembre 1940 à Romilly-sur-Seine, département de l'Aube, de parents d'origine italienne, ayant immigré en France et reposant au cimetière du village. Conscrit, il fait donc l'armée française, il reste 2 ans et 2 mois, les 2 mois supplémentaires étant réservés aux têtes fortes, hein, ça dit quelque chose. Jeune adulte, il s'installe au Québec en octobre 1963. À Montréal, il est typographe au Nouveau Samedi et cumule des petits boulots pour joindre les deux bouts. Il passe quelques mois au journal de Sherbrooke, où plusieurs de ses textes sont teintés d'anticléricalisme, ce qui n'était pas la dernière fois. Après un bref passage dans les hebdos de Saguenay, Foglia rentre à Montréal et décroche un emploi à la Patrie Média Montréal, et qui se qualifie de l'hebdomadaire des Canadiens français à compter de 1966. Il signe des textes dans la section sport, une rubrique où il reviendra fréquemment au cours de sa carrière. Et puis, je vais aller un petit peu plus loin. On va parler de Montréal Matin. Voilà. Ça aussi, c'est intéressant. Alors, après un bref passage, donc, il se rend à Montréal. Donc, durant la crise d'octobre, Foglia est chef de pupitre à la section des sports de Montréal Matin. Il écrit aussi quelques textes consacrés au cyclisme et au hockey. Le 16 octobre, il signe un reportage aux Actualités générales, faisant suite à une conférence de presse que tient M. Robert Lemieux, avocat des Felkis, à l'hôtel Nelson dans le Vieux-Montréal. Il faut comprendre que le journaliste indépendantiste de la première heure connaît bien les gens de l'entourage du Front de libération du Québec. Il y a toute une histoire au sujet qu'il avait même été interpellé par la police, mais non pas arrêté lors de la crise d'octobre. Et lorsque Pierre Laporte est retrouvé mort le 17 octobre, l'exaltation des premiers jours de la crise d'octobre est disparue. Nan Foglia, dans son texte de 2010, le 17, tout s'est écroulé. Tout est devenu glauque, dit-il. L'homme reprend le travail à la section des sports de Montréal Matin. On annonce même sa promotion comme responsable du cahier Sport Week-end. Et puis, il arrive à la presse en 1972 et signe la chronique Mission 76, dont le titre renvoie évidemment à la tenue des Jeux olympiques de Montréal. En marge de celle-ci, on lui donne une petite colonne intitulée Mon œil sur le sport. Durant les Jeux olympiques de Montréal en 1976, il signe une chronique simplement intitulée Les Jeux. Il parle au public, aux organisateurs, aux athlètes. Il relève des incongruités, comme dans le numéro du 19 juillet 1976, alors qu'il déplore que les sièges de la piscine olympique réservés aux VIP restent désespérément inoccupés. Le 29 mars 1980, quelques jours avant la tenue du premier référendum du 20 mai, donc sur la souveraineté du Québec, trois journalistes de la presse sont nommés chroniqueurs, dont lui, hein, et puis avec Guy Pinard et Lisiane Gagnon. Ce dernier ne perd pas de temps, donc, à faire le fanfaron. Le jour même, en guise d'introduction de son premier texte, il écrit: ça fait longtemps que je n'ai pas écrit, assez pour que je ne me souvienne plus très bien de comment on fait ça. De toute façon, ça commence mal. Mes boss m'ont dit, tu fais 4 chroniques par semaine, n'importe quel sujet, c'est libre. J'ai aussitôt fait le tour de la liberté promise. Est-ce que je peux parler de cul? Non, je me doutais bien. Eh bien, j'ai reposé la même question plus subtilement. Est-ce que je peux parler de moi? Oui, si tu veux. On va arrêter là-dessus pour aller à notre chronique tout de suite avec Isabelle Falardeau. Gestion de temps. Je voulais m'assurer qu'on a assez de temps pour toi, Isabelle. Alors, on va parler des fines herbes, les herbes qui sont aussi fines que toi.
C'est gentil. Je vais parler moi aussi d'un grand disparu, puisque c'est un article de Larry Hodgson qui est paru le 28 juillet dernier, mais sur le blog Jardinier paresseux, parce que Larry Hodgson, c'était le jardinier paresseux, mais le texte est paru à la base dans Le Soleil le 6 août 2011. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas Larry Hodgson, c'était ce journaliste et blogueur horticole qui a écrit 65 livres de jardinage. On peut dire que c'est vraiment une référence ici au Québec. Conférencier, vulgarisateur, donc il nous a quittés en octobre 2022, mais son fils Mathieu Hodgson, entre autres, avec une équipe de collaborateurs, garde vivante la mémoire de son père avec le blog Jardinier paresseux. Donc il y a des articles de Larry, mais aussi bien sûr beaucoup d'articles tout nouveaux là, de la nouvelle équipe qui sont toujours très pertinents. Et donc celui que j'ai choisi aujourd'hui, comment conserver les fines herbes? Ben c'est ça, hein, on a tous déjà fait pousser des plantes. Et ce qui est à peu près le plus facile à faire pousser, c'est ça, des fines herbes. Donc, ça nous est... En tout cas, moi, je ne sais pas si ça est arrivé à tout le monde. Moi, ça m'est déjà arrivé d'acheter un petit pot de fines herbes à l'épicerie puis de la remettre en terre une fois rendue chez moi. Même si ça a un succès mitigé parce que c'est pas des pots qui ont été faits pour être transplantés à la base. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que les fines herbes, il faut les récolter avant qu'il soit trop tard, si on veut pouvoir les utiliser, avant qu'ils meurent comme votre basilic, Denis Martin.
Oui.
mais avant qu'ils montent en graines. En fait, la plupart des fines herbes peuvent être récoltées à tout moment, mais en général, c'est au moment où les plantes commencent à fleurir que là, leur goût est le plus concentré. Et donc, c'est le meilleur moment pour les récolter, aussi pour la conservation. On dit que le goût est plus intense le matin, mais il faut quand même attendre que la rosée soit partie avant de récolter les feuilles, parce que les feuilles et les tiges humides se conservent plus difficilement.
OK.
La méthode la plus utilisée, vous allez vous en douter, c'est le séchage. On l'emploie notamment pour les plantes qui ont une tige peu ligneuse, comme le romarin, l'origan, le thym, la marjolaine. On coupe les tiges, on les ficelle par petits groupes. On évite de faire un gros bouquet parce qu'on veut quand même que les tiges restent aérées. Donc, si c'est trop serré et qu'il y a trop de tiges ensemble, ça peut moins bien s'aérer. On suspend les tiges à l'envers, de préférence dans une pièce sombre et bien aérée. C'est peut-être un peu difficile à trouver, ce sombre et bien aéré. Parce que moi, je penserais tout de suite à mon placard pour une pièce sombre, mais c'est pas la pièce la plus aérée. En tout cas, ce qu'on déconseille, c'est de les suspendre au plafond de la cuisine.
OK.
Parce que c'est une pièce qui est généralement trop humide pour le séchage, parce que quand on fait cuire des aliments, il y a toujours de la vapeur d'eau qui se dégage. Donc ça crée plus d'humidité souvent que dans le reste de la maison. On dit que la plupart des fines herbes vont sécher en moins d'une semaine et ensuite on peut les entreposer dans des pots étanches bien identifiés, idéalement à la noirceur. Ça peut être des pots, mais ça peut être dans des sacs Ziploc, en autant que ça soit hermétique et c'est ça, à l'abri de la lumière, parce que la lumière va pouvoir nuire à la conservation.
Ah bon, OK.
On dit qu'on peut aussi essayer de faire sécher les herbes au micro-ondes, mais là, il faut expérimenter un peu pour obtenir de bons résultats. Ça va toujours dépendre de la puissance du micro-ondes de chacun. On place les tiges sur une feuille de papier. On dit de papier de cuisine, j'imagine qu'on veut dire du papier essuie-tout. On les couvre d'une autre feuille. On essaye une minute au début. Parfois, ça va être suffisant. Puis, si jamais la plante n'est pas séchée, on augmente de 30 secondes jusqu'à généralement un maximum de 30 minutes. De 3 minutes, pardon. 30 minutes, ça serait vraiment excessif. Donc, 3 minutes de séchage au micro-ondes. Les fines herbes, on parle évidemment là, des fines herbes qu'on utilise pour leurs feuilles, mais si on veut plutôt utiliser les graines, par exemple, pour la coriandre, la nette, le carvi, hein, il y a certaines plantes pour lesquelles on veut garder plutôt les graines, bien là, évidemment, il faut attendre la floraison, puisque c'est après la floraison que les fleurs se transforment en fait, produisent des graines pour se reproduire. Donc là, à ce moment-là, quand les capsules de graines commencent à brunir, on récolte les tiges, on les place à l'envers ou à l'endroit dans un sac de papier pendant quelques semaines. Là, les graines vont tomber au fond du sac et on pourra les verser dans des pots étanches. C'est vraiment la façon la plus facile d'enlever les graines. On les fait sécher et en même temps, on les sépare de la tige. Donc ça, c'est pour le séchage. Ensuite, évidemment, on a la congélation. La congélation, on recommande de faire ça dans des bacs à glaçons. C'est une belle option. On dit que pour certaines fines herbes, c'est vraiment plus facile de les conserver de cette façon-là. Par exemple, pour le persil, la ciboulette, la livèche. Donc, on les coupe de la même manière que si on allait les faire cuire, donc en petits morceaux. On peut hacher la ciboulette et le persil, par exemple. Mais les feuilles de menthe ou les feuilles de mélisse, ben là, on peut les garder entières. C'est comme ça qu'on les aurait utilisées à la cuisson. Saviez-vous qu'on peut même congeler les fleurs de bourrache?
Ah, je ne savais pas.
Voilà, la bourrache. Je vais dire que je l'ai su, mais j'ai oublié. Mais donc, c'est ça. Il y a certaines fleurs qu'on peut aussi congeler. Donc, ce qu'on nous dit, c'est qu'on dépose une cuillère à thé de la fine herbe préparée, donc soit entière, soit hachée, dans un plateau à glaçons, et on ajoute une cuillère à table d'eau. Donc, on met de l'eau aussi avec la fine herbe. On place au congélateur, puis là, ben, une fois que c'est que les glaçons sont bien congelés, on les enlève et on peut les mettre dans des sacs, dans des ziplocs, dans des sacs de congélation. Évidemment, on les identifie et on écrit à quelle date on les a congelés.
Ah oui, pourquoi?
On veut quand même se rappeler, par exemple, si on a plusieurs fines herbes qu'on a congelé pas la même date, mais on veut commencer par les plus vieilles.
Parce que je me demandais, ça finit par expirer, ça finit par ne plus être bon, c'est ça aussi, hein?
Oui, ben c'est ça. Là, au congélateur, c'est, même si on prend les meilleures conditions, il va à un moment donné avoir de l'air qui va s'insérer soit dans le sac, soit dans le pot qu'on a utilisé. Puis là, ben ça va créer un petit peu comme une couche de glace, puis ça va altérer le goût de la fine herbe. Mais c'est aussi pour c'est important de les identifier parce que un glaçon de persil, ça peut ressembler à un glaçon de coriandre, mais ça goûte pas la même chose.
Ouais, c'est vrai, hein, c'est un peu comme les fameux plats de plastique quand on a commencé, là. Tout se ressemblait, puis là, ben, si on notait pas, c'était quoi? C'était la surprise du jour, ce qu'on va manger aujourd'hui, oui.
J'ai plusieurs plats dans mon congélateur en ce moment, là, que je sais pas du tout c'est quoi, et je vais éventuellement devoir les mettre au compost, parce que j'ai oublié de les identifier. mais ça, c'est fin de la parenthèse. Et la dernière méthode qu'on recommande dans l'article, c'est les vinaigres et huiles aromatisées. Donc ça peut être vraiment intéressant aussi. C'est vraiment facile. On prend une tige ou deux, on les met dans une bouteille, on verse du vinaigre, on scelle et on place dans un lieu ensoleillé. Et là, on secoue occasionnellement pendant 2 semaines. C'est vraiment pour transférer le goût de l'herbe au vinaigre. Puis ensuite, on peut les conserver dans un endroit frais et sombre. Les vinaigres au fines herbes, on peut les conserver pendant des années parce que l'acidité du liquide va empêcher le développement de micro-organismes. Puis si on veut faire une huile aromatisée, on procède de la même façon. Idéalement, on utilise une huile à faible goût si on veut vraiment conserver et sentir le goût de l'herbe. Mais là, il vaut mieux conserver l'huile au frigo. Si on veut conserver une huile aromatisée plus de 3 semaines, on recommande même de la congeler plutôt parce que l'ajout de plantes fraîches dans l'huile, ça peut créer un risque de botulisme si on conserve à température ambiante. Et j'imagine au frigo, après un certain temps aussi, là, le goût peut être altéré. Là, on le dit pas ici, mais j'imagine qu'on peut aussi faire des glaçons d'huile si on décide de congeler. Puis après ça, on les rajoute au moment de la cuisson. Évidemment, on conclut en disant qu'il existe bien d'autres méthodes de conservation, mais ces 3 méthodes-là qu'on vient de mentionner, ça devrait vous lancer sur la bonne piste.
Bon, et puis l'autre chose à faire aussi, c'est de ne pas être trop occupé puis d'oublier d'arroser ces fines herbes. Alors, je n'ai que moi à blâmer pour mon basilic.
Mais c'est exceptionnel cette année parce que généralement, des plantes qui auraient normalement eu beaucoup de succès, même dans ma plate-bande, j'ai des immortelles qui sont en train de sécher, puis alors que ça, c'est comme son nom l'indique, là, c'est l'immortelle. Bon, c'est plus à cause de la fleur qu'on lui donne ce nom-là, mais il y a des plantes qui sont dures à tuer, mais qui sont en train de mourir en ce moment là, parmi nos vivaces parce qu'il fait trop chaud, trop soleil.
Tout à fait. Merci beaucoup, Isabelle Falardeau. On se revoit la semaine prochaine.
Bonne semaine.
Merci.
Bye-bye.
Alors nous, j'ai le temps de vous rappeler donc que c'est encore un peu chaud et humide. Hein? Ça va finir par passer. Il y a de la pluie, des risques d'orage. Pour le moment, j'en ai pas vu ici à Montréal. Après la pause, on va parler à Réginald Saint-Éloi, qui est un humoriste, qui va nous parler de la place qu'il met à la diversité. Puis on va aussi continuer de parler de Pierre Floglia. Et je vous rappelle, oui, qu'il y a un risque, il y a un avis de tsunami hein, sur la côte de la Colombie-Britannique, mais bien que là, c'est beaucoup moins grave qu'on le pensait. Mais bon, on en reparlera après la pause.
Vous écoutez Au quotidien avec Denis Martin Chabot.
Pour ceux qui flânent fort, ah, c'est le premier play. Je peux pas l'amener au spa. Si c'est ça qui t'intéresse, sorry, je suis pas dans ça. Ah, c'est le premier play. J'arrive dans pas longtemps. Ne colle pas par intérêt, la vie c'est pas Melrose Place.
Hey, babe, viens voir la vie en vrai. Je connais pas ton ex, mais je sais qui va m'en vouloir.
Hey, babe, ici on connaît pas Gouma.
On a des amis en commun, ils m'ont dit que t'étais dur, donc j'étais moi, bon courage. T'inquiète, je vais tout payer. Hein. Oui, je vais tout payer. Pour éviter que pénave, obligé de tout payer.
Ah, c'est le premier paye. Je peux pas l'amener au spa. Si c'est ça qui t'intéresse, sorry, j'suis pas dans ça. Ah, c'est le premier paye. J'arrive dans pas longtemps. Ne colle pas par intérêt, la vie c'est pas Melrose Place.
Ah non, ça s'arrête pas. 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 Ah non, ça s'arrête pas.
fait le tour de la ville en hélico de Janeiro Rio. C'est pour toi mon bébé, amore mio. Ils sont la boca boca comme un pélican, mais flingueur est toujours vêtu de Dior. Viens voir la vie en vrai, on parle de ces bandeurs au passé. Ma pessa gigantesque, le négro s'arrête pas de passer. Chui. Ma chérie fait consommer baby sans regarder l'addition. Chui.
You can see me,
tu sais pas qui je suis.
Ah, promets babe, je peux pas l'amener au spa. Si c'est ça qui t'intéresse, sorry, je suis pas dans ça. Ah, c'est promets babe, j'arrive dans pas longtemps. Le col pas par intérêt, la vie c'est pas Melrose Place.
Ah non, ça s'arrête pas. 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 Ah non, ça s'arrête pas.
Et c'était Que Black, Melrose Place.
Ouais, la vie, c'est pas Melrose Place. J'aime beaucoup hein, le hip-hop. Je sais que j'en fais jouer souvent à l'émission, mais c'est plus fort que moi. C'est mon style musical, un de mes styles musicaux que j'aime beaucoup. On va parler d'humour maintenant. L'humoriste original Saint-Éloi se donne pour mission de casser les barrières dans l'industrie de l'humour en créant des opportunités réelles pour les artistes issus de la diversité et de la relève. On le reçoit donc à l'avant-veille d'un spectacle qui va donner à Saint-Léonard. Bienvenue à Canalem, Réginald.
Bien, allô, ça va bien?
Oui, ça va bien, ça va bien. Alors, casser les barrières. Moi, ça m'a intrigué quand j'ai lu ça. Ben, parle-nous de ces barrières contre lesquelles toi, tu as dû te battre dans ta carrière.
Ben, écoute, comme on le dit souvent entre nous dans le milieu, dans l'humour, quand on est issu de la diversité, on se rend compte que c'est dur pour nous d'accéder à certains plateaux. Il y a tout le temps un délai d'attente ou quoi que ce soit. Comme des fois, je parle avec d'autres collègues humoristes, ils sont comme moi, j'ai écrit à telle production ou peu importe. Puis, exemple, j'ai écrit en octobre, ils m'ont donné une date pour février. T'sais, puis des fois, t'en vois qu'ils reviennent plus régulièrement que toi. Fait que nous, quand on a vu ça, on s'est dit, tu sais quoi, je pense qu'au lieu de faire partie de ceux qui se plaignent, on dit, essayons de trouver une solution. Puis la solution, ça a juste été de créer nous-mêmes notre propre plateforme. T'sais, c'est pour ça que ma femme et moi, on a créé ce qu'on appelle Divertissement RR. C'est vraiment notre mission de mettre de l'avant les humoristes issus de la diversité, tout en leur permettant de partager le plus que possible la scène avec des humoristes plus établis.
Juste curieux, double R.
Ah oui. En fait, c'est juste Réginald et René.
OK, c'est le nom de ton épouse.
Exactement.
Non. Alors, oui, tu parlais de ces barrières auxquelles font face les artistes de la diversité. Et tu sais, j'ai participé à beaucoup d'événements. Je suis allé voir beaucoup de choses au Festival Juste pour rire, qui est revenu là, après une année assez difficile.
Heureusement que c'est revenu.
Mais tu sais, j'avoue que ben, les hommes étaient très, 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 très présents, les femmes moins. Et les personnes de la diversité, pas mal moins.
Un peu. Ben c'est ça. Hein, comment je dirais ça? C'est vraiment l'échelle que ça prend. C'est les hommes, on place les femmes, ensuite, comme tu le dis, la diversité. Puis nous, c'est vraiment ça notre mission. Nous, on veut vraiment y aller plus au talent qu'au sexe. T'sais? Parce que tu sois un homme, une femme, homosexuel, hétérosexuel, issu de la diversité ou pas, si t'es bon, t'es bon. Puis nous, c'est vraiment ça qu'on regarde. Moi, comme j'ai dit, les gens qui sont sur notre scène, à chaque fois qu'on fait des shows, mon souci à moi, c'est je veux que l'artiste ait autant de fun que le public en a eu. C'est fait que on s'assure que le public qu'on amène, que les humoristes qu'on amène va plaire au public qui est là, que tout le monde va ressortir de là avec une certaine confiance et que peu importe que tu sois haïtien, québécois, jamaïcain, peu importe ta nationalité, que tu sortes de là et que tu fasses comme « Hey, c'était cool ». Jusqu'à maintenant, je pense qu'on a bien respecté ce mandat-là.
Ben, tu sais, j'ai vu des humoristes, beaucoup d'humoristes de la diversité, et j'avoue que à chaque fois que quelqu'un me dit « Ah, je peux aller voir », je dis « Mais tu sais pas ce que tu manques ». Parce que, je vais pas être flagornant, mais c'est vrai qu'il y a tout un pan d'humour qu'on manque. Parce que l'humour qui sort de la diversité, c'est un humour qui est vraiment drôle. Et je pense qu'on manque cet humour-là quand on les voit pas.
Oui, puis écoute, moi, la première qu'on avait faite officiellement, qu'on a lancé l'entreprise, Il y a Alexandre Barrette qui est venu, qui a été la tête d'affiche surprise. Puis quand il est retourné, lui, lundi en onde, parce qu'il a son émission aussi, j'ai vraiment aimé ce qu'il a dit. Il a dit, écoute, là-bas, là, c'est fête au village. Donc, ces gens-là font pas juste rire. Ils vivent leur rire. C'est s'il faut qu'ils se lèvent, fassent deux pas pour rire, ils vont le faire. Puis c'est vraiment nous. On est vraiment comme ça. Puis moi, ce que j'aime aussi, c'est quand on permet à des artistes un peu plus établis de venir, ça permet aussi à un public, à notre public, de découvrir. Parce que moi, mon grand étonnement, quand Alex y est venu, le monde sont venus me parler après, ils m'ont dit, ah, oh, mais nous, on pensait juste qu'il faisait taxi payant. C'est là que j'ai fait comme, oh mon Dieu, il y a un travail d'éducation à faire. Tu sais, le gars, ça fait des années qu'il fait de l'humour. Toi, tu le reconnais juste pour taxi payant.
Wow.
Fait que c'est exact. C'est ça le fun. C'est que il y a un travail d'éducation qui est fait en même temps. Les artistes découvrent un nouveau public et le public découvre des artistes qu'ils connaissaient pas auparavant.
Comment t'expliques ça qu'encore ces barrières-là en 2025?
Ben écoute, moi je dirais simplement que c'est que ça n'a pas changé. Parce que moi, si aujourd'hui je te demande exemple, si je te demande de me nommer des humoristes de la diversité que tu connais, tu vas sûrement me dire, à partir de ton temps, tu vas me parler d'Anthony Cavanagh. Tu sais, je veux dire, c'est encore des anciens noms. Ça veut dire que il n'y a pas une nouvelle relève qui a pris une place assez significative pour qu'on s'en rappelle. Puis c'est un peu ces barrières-là qu'on essaye de défoncer. Écoute, aujourd'hui, tous les humoristes issus de la diversité que je connais, qui ont un minimum de succès, ont dû partir leurs propres affaires. Ont dû créer leur propre plateforme parce que s'ils auraient attendu après une opportunité ou quoi que ce soit, elle serait peut-être jamais arrivée. Tandis que quand tu crées ta propre plateforme, ça te fait voir, puis c'est là qu'on te remarque. Tu sais.
Alors, parle-moi comment toi, tu abordes la diversité, la tienne d'abord, mais peut-être d'autres diversités, dans tes spectacles.
En fait, nous, ce qui est fun, c'est que l'été passé, on avait créé les soirées micro-ouvertes, open mic qu'on dit, où est-ce qu'on permettait à tout le monde de venir s'essayer et tout. Puis moi, c'est là que j'en ai découvert beaucoup et plusieurs. Puis moi aussi, en allant jouer sur d'autres plateaux, quand je les vois, je les repère, je les écris après. Je dis « Hey, salut, j'ai aimé ce que tu as fait. Écoute, j'ai une soirée, j'ai ceci, est-ce que tu viendrais? Voici. » Puis tu sais, eux autres sont ouverts, ils viennent parce que ça leur fait une scène de plus. Puis toujours à leur grande surprise, ils sont comme « Wow, c'est vraiment cool ici. » Tu sais, moi, il y a du monde, ils sont même venus, ils m'ont dit « Ben non, mais ici, c'est New York. » Genre, c'est leur façon de dire que c'est très noir, afro comme public. Mais ils sont comme « Mais écoute, je viens de vivre quelque chose que j'ai jamais vécu. » Genre, ce genre de rire-là, tu sais, des fois, ils disent c'est quasiment faux parce que c'est pas toutes les soirées qu'on va faire, qu'on va avoir ce genre de rire-là. Et pourtant, c'est que des fois, ce qu'ils amènent, nous, on le reçoit bien.
Mm-hmm.
Tu sais, comme j'aime dire, on est un public très sincère.
Ouais.
Si c'est drôle, on va rire avec toi, on va pas se gêner, tu sais.
Mais ton public n'est pas seulement que les personnes de la diversité. J'imagine que tu
non.
veux que tout le monde soit là.
Exactement, tout le monde soit là, puis c'est pour ça aussi que comme le show de vendredi, on met plusieurs personnes sur le show, tu sais, on a des Haïtiens, on a des Congolais, j'ai deux Québécois qui vont être là, j'ai une Turque, la tête d'affiche, c'est Sinem Kara, qui elle est Turque, tu sais, on essaye vraiment d'en donner à tout le monde pour que monsieur et madame tout le monde soient le bienvenu, et comme tu le dis, chaque fois qu'on fait nos shows, il y a de tout, là, c'est pas juste des Afro-descendants, non, on a des Québécois, on a des Afro-descendants, on a des Latinos, on a des Asiatiques, on a de tout.
Alors, de quoi rient les humoristes haïtiens d'origine, comme toi?
Les humoristes haïtiens d'origine, écoute, nous, on est vraiment dans le storytelling.
Okay.
Si tu nous parles vraiment de toi, de tes histoires et tout, parce que nous, on aime que ce soit comme un film.
Mm-hmm.
C'est quand je m'assois avec toi, puis c'est pour ça que certains d'entre nous, dont moi, si tu me demandes un de tes humoristes préférés québécois, je vais te dire c'est Jean-Marc Parent. Parce que moi, de rentrer dans l'univers de quelqu'un, puis de quasiment, tu me racontes une histoire, mais que je peux voir l'histoire, ça, c'est vraiment ce qui nous emporte. Parce que nous, l'humour, on la consomme comme ça à la base. Tu sais, c'est vraiment les derniers souvenirs que j'ai, tout assis dans un salon, prends un verre, puis quelqu'un raconte quelque chose, puis c'est ça tout le temps, ça a été ça, moi, mon éveil humoristique.
Mm-hmm.
C'est vraiment de voir le monde, il raconte des histoires, et c'est drôle, on rit et tout. Puis ensuite, tu te rends compte que dans un milieu professionnel, ben, il y a certaines structures à mettre pour amener ça sur scène, mais à la fin de la journée, c'est du storytelling.
Et toi, tu fais ça, j'imagine, dans ton humour?
Ah oui, moi, c'est beaucoup de storytelling. Moi, il n'y a rien de ce que je raconte que je n'ai pas vécu de près ou de loin.
Ah oui.
C'est tout le temps une situation qui m'est arrivée ou quelque chose que j'ai vu qui a éveillé en moi une histoire, mais ça part tout le temps d'un fait vécu.
T'as piqué ma curiosité, ton artiste turc.
Oui.
Elle fait de l'humour.
Sinem
Karar. Oui. Alors, ouais. Quelle sorte d'humour elle va nous faire?
Écoute, moi, Sinem, je l'ai vue à plusieurs reprises et elle me fait rire comme ça se peut pas. Parce qu'elle est un peu, comment je dirais ça, c'est surtout un de ses numéros qui m'a vraiment fait rire, moi, c'est quand elle commence le numéro en disant « Moi, je parle pas de sexualité. » Mais à la fin, tu te rends compte qu'elle a fait juste ça, mais de manière tellement intelligente que si tu n'as pas pris le temps de réfléchir, tu te rends pas compte que c'est ce qu'elle vient de faire. Mais pourtant, elle le fait avec brio. Puis moi, comme je dis tout le temps, je demande pas aux artistes de quoi tu vas parler ce soir. Non, je veux que ce soit une surprise, autant pour moi que pour le public, puis que tout le monde puisse en profiter.
Pratico-pratique, pour ceux qui veulent voir le spectacle ce vendredi, c'est où, quand, comment?
Écoute, c'est à la salle La Providence, 6665 rue Jarry à Saint-Léonard. Pour se procurer les billets, on peut aller sur le site internet divertissement au pluriel avec un S à la fin, divertissementrr.com. Sinon, tous ceux qui m'écoutent, vous pouvez aller m'ajouter sur les réseaux sociaux Régional Humour et le lien est dans ma bio pour se procurer les billets pour le spectacle.
À part le spectacle de vendredi, il y a d'autres projets pour toi?
Ben après ça, je te dirais que la saison va recommencer, fait qu'on va continuer à se booker dans des soirées pour continuer notre rodage. Entre autres, j'ai à l'Abreuvoir que j'ai un ami qui, Mi Benson, mon collègue, qui fait des soirées, je vais être là. Erickson aussi, un peu au Bordel, Comedy Club. On est un peu partout pour faire du rodage. Puis quand on va avoir quelque chose de très solide à présenter au public, ben, je vais vous le faire savoir via mes réseaux sociaux.
Là, je vais abuser des bonnes choses, Réginald. Il me reste une minute. Est-ce que tu as une bonne blague à nous raconter?
écoute, ben moi, ce que j'aime dire, c'est la manière dont j'ai commencé, même en humour, moi. Je m'étais vraiment lancé là-dedans. Je me suis inscrit à une soirée open mic. Je me suis dit, si ça passe, ça passe. Si ça casse, au moins, j'aurais essayé. Puis la journée même, je me demandais encore, mais de quoi je vais parler aux gens? Puis là, je me rappelle que la veille, j'écoutais une émission avec mon fils. Ça s'appelle « Proie humaine ». Entre autres, c'est comme c'est des situations où est-ce que des gens sont dans la nature puis tombent face à face avec des animaux sauvages. Puis je me souviens, dans cette émission-là, ils sont tombés face à face avec un ours. Puis le père, pour protéger sa fille de l'attaque de l'ours, s'est mis devant sa fille. Puis moi, je me souviens, je regardais ça avec mon fils, puis je me disais, tabarnouche, si ça nous arrive, mon fils est tellement dans marbre. Oh, c'est ça. J'ai dit, oh non, ce courage-là que ce monsieur-là, il a, je l'ai tellement pas. À la fin de la journée, c'est toi ou c'est moi, je me choisis moi.
Ah, okay. Oh, c'est trop drôle. Réginald Saint-Éloi, on peut voir donc ce vendredi. Plus d'informations, divertissementsrr.com. Merci beaucoup, c'était très généreux de ta part. Merci.
Ah, ça m'a fait plaisir, n'importe quoi.
Merci.
Bonne journée.
Bonne journée.
Peut-être qu'un jour, tu m'aimeras un peu plus. Peut-être qu'un jour, tu m'aimeras comme moi. Je t'aime, mais je ne serai plus là pour braver ta tempête. Non, je ne serai plus là, 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 pour te prendre dans mes bras. Non, je ne serai plus là pour toutes tes prises de tête. Non, je ne serai plus là, 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 pour danser avec toi. Car la vie accueille ceux qui s'aiment vraiment, vraiment, oui, la vie, j'accueille, j'ai traîné au gré du vent. Oui, la vie accueille ceux qui s'aiment vraiment, vraiment, oui, la vie. J'accueille, j'enlace au fil du temps. Peut-être qu'un jour, tu m'aimeras un peu mieux. Peut-être qu'un jour, tu m'aimeras comme moi je t'aime, mais je ne serai plus là pour braver ta tempête. Non, je ne serai plus là.
T'es Dominique, fils aimé, moi je t'aime.
Je vais reprendre donc des extraits de ce texte en hommage à Pierre Foglia qui est décédé hier à l'âge de 84 ans. C'est un texte d'André Duchesne de La Presse, évidemment La Presse qui est en deuil suite au décès de Pierre Foglia. Alors lorsqu'il s'est retrouvé à La Presse dans les années 70, on lui a donc offert, après les Jeux olympiques, de faire de la chronique. En fait, en 1980, il a offert de faire de la chronique. Alors, dans cette première chronique, il demande au lecteur de lui écrire en spécifiant « ça s'appellerait le courrier du genou ». Et ça fonctionnerait sur le même principe que le courrier du cœur, mais en plus gai. Alors voilà l'origine du fameux courrier du genou, une des marottes de Foglia, qui trouve sa source donc à ce moment-là. Dans les 35 années qui suivront, le journaliste et chroniqueur cultivera beaucoup d'autres marottes et expressions auxquelles il est facilement identifiable, comme celle de terminer... titre ou phrase par « Mon vieux, bien senti hein, ». Un bon vieux, mais bien senti. Même chose, hein, pendant les Jeux olympiques, son regard d'observateur pour des petits riens était des plus aiguisés. Cet échange sans parole avec un militaire coréen, on se rappelle, il y a tellement fait de chroniques. À un moment donné, il était dans l'Hexagone, le cyclisme. Il s'intéressait à beaucoup, beaucoup de choses. Alors, dans les Jeux olympiques de Séoul, hein, un militaire coréen, alors qu'il venait de débarquer à Séoul pour couvrir les Jeux olympiques en 88. Alors, je vais le citer, il était autour de minuit et sur le toit du hall de presse, juste au-dessus de moi, un soldat en tenue de para-guerre la nuit, garde le rêve. Je lui envoie la main. Il me rend mon salut en levant sa mitraillette. Une lune d'Halloween, mince tranche de citrouille, éclaire tout ça d'un sourire jaune. Il y a de quoi. Et l'actualité là-dedans, bien sûr, Pierre Foglia s'y intéresse aussi. Lorsque le hockeyeur Guy Lafleur revient au jeu avec les Rangers en octobre 88, Foglia l'accompagne dans La Grosse Pomme, hein, New York, avec un texte intitulé « La fleur love New York ». Au lendemain du féminicide de Polytechnique commis le 6 décembre 1989, il visite une des voisines de Marc Lépine, qui demeurait rue Bordeaux. Le soir du référendum du 30 octobre 1995, il est au quartier général du Cœur du Oui, installé au Palais des Congrès. Au tournant de l'année 2004, il signe une série de chroniques sur l'Irak où il est débarqué moins d'un an après la guerre éclair d'une coalition rassemblée par les États-Unis contre Saddam Hussein. Il retournera à Bagdad en avril 2013 pour parcourir la ville à vélo. Et puis, on va vous parler de cette fameuse histoire avec Michel Richard. En juin 88, Foglia la traite de lasagne, de toaster, de tondeuse à gazon dans une chronique où il descend en flammes l'émission Garden Party diffusée au défunt TQS. La chanteuse réplique avec une demande d'excuses et une poursuite de 150 000 $. La direction de La Presse s'est excusée le 30 juin. Foglia a présenté ses excuses comme suit. Il s'est excusé aux lasagnes, au toaster et aux tondeuses à gazon. Faut le faire. L'ancien député libéral Pierre Paradis, député de Broome-Missisquoi, où Foglia demeure, goûte aussi à son ironie. Le jour où il fait arrêter sa limousine pour le saluer alors que le chroniqueur va porter un sac de déchets en bordure de la route. Alors voici ce qu'il a écrit. « Vous auriez dû le voir quand il est sorti de l'auto. » Écrit le chroniqueur, donc, illuminé de bonheur, radieux de m'avoir trouvé sur son chemin. Plus radieux que ça, je ne vois que les miséreux baisant le bas de la robe de Mère Teresa. J'ai lâché mon sac ordure et j'ai serré sa main. Dans un portrait que lui consacre la journaliste Louis Gendron de l'actualité du 1er mai 1993, éditeur de la presse, feu Claude Masson, reconnaît que Folia était le seul journaliste dont le départ pourrait faire chuter le tirage. Mal à l'aise avec la reconnaissance, Foglia donnait de rares entrevues, comme à Nathalie Petrovski pour Châtelaine en décembre 89, au journaliste Barclay Fontaine dans Le Voix de l'Est en 1995, à son fils Manuel en mai 1997 pour La vie d'artiste, une émission télé de Radio-Canada, ou Infoman, lors de la toute première diffusion, c'était en octobre 2000. Et puis le collègue Mathias Brunet lui consacre un chapitre de son livre dans Parole d'homme qui est sorti en 2002.
Je repense souvent aux instants passés, à mettre des paillettes, me faire remarquer.
C'était le morceau « Caval » de Cœur de Pirate.
Je vais juste me permettre peut-être de continuer un petit peu là, sur la carrière de Folia. Alors, d'aucuns lui ont proposé d'écrire un livre, un roman ou autre, croyant que le talent du chroniqueur pourrait se transposer par magie dans un ouvrage. À cela, Foglia se posait comme douteur en chef, ça c'est l'expression de la presse, et il a mis un temps fou à le faire. Recueil de ses chroniques sur le Tour de France, le Tour de Foglia et Chroniques françaises est finalement sorti en 2004. Quand même. Le temps passé, Foglia est parti. C'était le 28 février 2015, en page A3. Sans surprise, Foglia est resté loin des bilans, des esclandres et de toute forme de sentimentalité. Il a publié, à la suite d'un appel au lecteur, la liste de 100 livres les plus populaires selon les sondés. Il a reçu 1300 listes, comptant 13 497 titres. C'est extraordinaire comment est-ce qu'il avait des gens qui le suivaient. Et puis, il venait rarement à la presse. Il travaillait de chez lui. C'était un des précurseurs du télétravail, j'imagine. Mais chaque fois qu'il allait voir ses amis, qu'il allait à la presse, déclenchait des sourires. Il était heureux de saluer. J'entendais plusieurs entrevues qui disaient aussi qu'il aimait beaucoup les potins. Alors, il venait prendre à la source des histoires d'un peu tout le monde, tout un chacun. Après la pause, nous allons faire un tour des nouvelles en Ontario français. Et pour ceux qui s'intéressent présentement à ce qu'il y a au temps qu'il fait, c'est encore humide. Il y a toujours des risques de pluie, d'orage, des averses et des orages. Ça ne s'est pas trop concrétisé jusqu'à maintenant, mais ça va refroidir, là. C'est promis à compter de demain. Alors, on vous revient après la pause.
Vous écoutez Au quotidien avec Denis Martin Chabot.
Au cinéma, lever les yeux pour la première fois. Une lueur au bout du doigt, endormie dans tes bras. Et puis plus rien. Du jour au lendemain, un cheval noyé, une histoire sans fin. Les jujubes et le cinéma. Je le connais déjà. Dis-moi, te sentais-tu trop vieux? Dis-moi, dis-moi, dis-moi. Es-tu la même? As-tu croqué la pomme? J'ai aperçu des marques dans ton cou. Sous cou, me traîner dans la boue. Changer de maison et changer de nom. De oui, de donner trois reprises. As-tu trouvé, crois-tu avoir compris? Les eaux se referment sur toi. Et moi, l'horizon, je le vois. Et je chante plus fort pour enterrer ta voix. Tu te croyais au cinéma, devant la caméra. Et moi, la scène des
Dis-moi, 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 par Lou Adrienne Cassidy.
Eh bien, c'est le moment de parler des nouvelles du Grand Canada français. On va rejoindre Julien Caillouette, qui est rédacteur en chef chez Franco-Presse. Bien, bonjour, bienvenue à l'émission.
Merci beaucoup, bonjour.
Alors, on va parler d'entrepreneuriat au féminin en milieu minoritaire. Ça a un prix, tout ça.
Oui, on a parlé à deux entrepreneurs et d'autres intervenants, et entre autres le Réseau de développement économique et d'employabilité du Canada, ou le RED, reconnaît que les femmes entrepreneurs peuvent avoir plus de difficultés à réussir en milieu minoritaire. Puis pour ça, il y a plusieurs raisons. Parmi les plus importantes, il y a l'accès difficile au capital, le manque de ressources en français et la rareté de réseaux de femmes entrepreneurs francophones de l'extérieur du Québec. Comme je dis, on a parlé à deux entrepreneurs pour connaître un peu plus leur expérience. Il y en a une qui est au Nunavut et l'autre est en Colombie-Britannique. Les deux sont fiers du travail qu'elles ont accompli, surtout avec les nombreux obstacles qu'elles ont rencontrés et qu'elles ont dû franchir. Puis même si elles arrivent à trouver des ressources en français, c'est pas toujours possible de trouver quelqu'un pour coopérer dans cette langue de travail-là. Par exemple, une des entreprises, celle du Nunavut, son site est uniquement en français parce que la personne qui l'a construit pour elle est anglophone, puis le propriétaire n'a pas nécessairement les moyens de payer quelqu'un pour traduire le site pour le moment. Les deux femmes interviewées n'arrivent pas nécessairement, n'ont pas le même niveau de revenus avec leur entreprise. Celle de la Colombie-Britannique a réussi à vivre de son entreprise, elle a même pu en fonder une deuxième. Et celle du Nunavut, Muriel Jacinthe, c'est une entreprise de marketing artistique, puis elle doit avoir un deuxième emploi pour réussir à vivre. Donc, ça donne un peu les deux extrêmes et ça peut aussi dépendre du domaine de travail.
Ouais, c'est là qu'on voit l'iniquité hein, d'accès à toutes sortes de soutien là, pour les entrepreneurs et entrepreneurs aussi en général, en français surtout là, dans l'extérieur du Québec. L'agrandissement urgent d'une école francophone est en 9e place sur la liste de priorités du gouvernement. On parle donc au Nouveau-Brunswick, le Saint-Genois.
Oui, c'est l'école Samuel de Champlain à Saint-John, dans le Nouveau-Brunswick, qui manque cruellement de place. C'est la seule école francophone de la ville, puis elle accueille 950 élèves.
Ouf.
Ce serait, puis même si ça a l'air beaucoup, ce serait même pas la moitié des élèves qui auraient le droit de fréquenter l'école. On ne peut pas supposer que tous les francophones, tous les ayants droit enverraient leurs enfants à l'école francophone, mais d'après le recensement, il y aurait presque 2000 personnes qui pourraient la fréquenter. Évidemment, il n'y a pas de place. Il n'y a même plus de cafétéria, parce que tout est utilisé pour des classes. Il y a des classes portatives à l'extérieur pour accueillir les jeunes. Puis apparemment, il y a même des pupitres et des armoires dans les couloirs.
Ouais.
Il y a un parent qui se dit très déçu de la situation. Entre autres, ses filles sont tristes parce que deux de leurs amis de l'école vont aller dans une école anglophone. Les parents ont décidé d'échanger d'école pour avoir un milieu plus propice à l'éducation, on pourrait dire. Et une école mieux équipée. Ça fait longtemps que les parents demandent l'agrandissement de l'école. La différence en ce moment, c'est que le gouvernement libéral de Susan Holt a répondu à la lettre que un groupe de parents a envoyée. Ça n'avait pas été le cas pendant 2 ans avec le gouvernement conservateur.
Ouais.
Et la ministre de l'Éducation est allée visiter l'école, voir la situation. Mais comme vous l'avez mentionné au début, malgré ça, l'école est seulement en 9e position sur la liste des priorités des projets d'immobilisation du ministère de l'Éducation pour l'exercice financier de 2024-2025, donc cette année. C'est une petite bonne nouvelle, mais un des parents prédit que même si on se met à développer l'école tout de suite, il n'y aura peut-être pas plus de place avant, ce ne sera pas fini de construire avant 2032. Et donc, quand on pense qu'ils ont peut-être déjà perdu 1 millier de francophones au système scolaire anglophone.
Ouais, ça aide pas hein, à améliorer la situation des francophones qui vivent dans ces provinces hein, où ils sont minoritaires. Ouais. Préserver l'avenir des petites municipalités avec des moyens réduits, ça vient du journal Le Nord.
Ouais, on a entendu. Il y a plusieurs petites villes, Il y a des petites villes du nord de l'Ontario qui sont sous la loupe pour des raisons économiques ces jours-ci. Quelques semaines, vous avez peut-être entendu par une nouvelle, Radio-Canada a fait un article national là-dessus. La petite ville de Fauquier-Streetland, au nord de Timmins, a demandé l'aide du gouvernement. Ils ont une grosse dette, puis ils ont annoncé la mise à pied de tous leurs employés pour le 1er août, là, si rien n'est fait, ça va être dans deux jours, en fait. Donc, le Journal du Nord s'est intéressé à nos petites municipalités de 500 habitants, pas très loin dans leur région, et qui est pas très loin de Fauquier-Strickland aussi. La ville s'appelle Valrita-Hearty. Ils ont aussi des problèmes de financement similaires, donc pas beaucoup de revenus et beaucoup de travaux d'infrastructures à réparer. Et ils ont décidé il y a quelques années de s'attaquer aux problèmes de financement et de réparation avec une stratégie bien planifiée. La mairesse Joanne Barry fait remarquer qu'avec un petit conseil municipal de 5 personnes et 3 employés à temps plein, malgré toute la bonne volonté qu'on peut avoir, on peut pas tout savoir. Il faut donc aller chercher de l'aide à l'extérieur, puis accepter de faire ce qu'on peut avec ce qu'on a. Fait que Mme Barry explique que le gouvernement provincial a des exigences pour les municipalités, puis mais le problème, la difficulté pour eux, c'est que ces exigences-là sont les mêmes pour les grandes et les petites municipalités. Donc, pour les petites municipalités, c'est un plus gros fardeau d'atteindre ces standards-là. Malgré cette critique-là, la municipalité fait tout son possible pour rénover ses infrastructures à long terme sans imposer un fardeau excessif aux contribuables.
Parlons d'inclusion. Maintenant, un nouveau programme de jumelage pour favoriser justement l'inclusion à Calgary, c'est sort de Franco-Presse.
Je me suis trompé. Ça vient du journal Le Franco, pardon.
Ah, Le Franco, oui.
Oui. C'est le portail de l'immigration association de Calgary qui a lancé un nouveau programme de jumelage interculturel relativement original. Le programme vise à accueillir principalement des femmes immigrantes qui viennent d'arriver dans la région de Calgary en les jumelant avec une famille ou une personne qui est déjà sur place. Puis ça peut être une famille ou une personne qui a immigré aussi ou quelqu'un qui est là depuis plus longtemps. Il existe deux types de jumelage, un linguistique et un social. Pour le jumelage linguistique, c'est évident, là, ça sert à améliorer. Mais en fait, non, c'est pas évident. C'est pas pour améliorer le français, c'est pour améliorer l'anglais pour les gens qui arrivent à Calgary, parce que milieu minoritaire, on entend souvent parler des immigrants qui arrivent au Canada, pensent qu'ils vont pouvoir parler français partout et en arrivant à l'extérieur du Québec. Surtout, on se rend compte que c'est pas nécessairement possible et encore moins possible de travailler si on connaît pas un peu l'anglais. Donc, jumelage pour les aider à l'apprendre. Puis le jumelage social, quant à lui, ça aide les nouvelles arrivantes à mieux connaître la ville, les services et à rencontrer des gens qui vont peut-être côtoyer au fil du temps. Les personnes jumelées travaillent bénévolement, mais elles bénéficient d'un encadrement rigoureux parce qu'on veut que ça soit bien fait. Puis le programme, bon, est juste disponible à Calgary pour l'instant, mais l'association espère pouvoir l'étendre dans d'autres villes.
Surf Bay est la première série télé francophone tournée en Colombie-Britannique. Et là, ça vient bel et bien de Franco-Presse, c'est ça?
Oui, absolument. le tournage de Surf Bay Côte-Ouest, c'est le nom complet de la série, s'est terminé début juillet. Ça a été tourné dans la région de Vancouver et de Tofino, en Colombie-Britannique. L'histoire suit Margot Swan, une surfeuse renommée et profondément attachée à son petit village de Surf Bay. Il y a un projet touristique qui menace la forêt centenaire autour du village, puis elle prend position. Et ça risque de compromettre sa carrière et même de se mettre à dos ses proches. La série tient compte que l'action se passe dans un village où la francophonie est minoritaire, donc l'anglais est présent dans la série quand même. Puis ça a été tourné avec une équipe bilingue venant de partout du pays. Par exemple, l'idéateur et producteur Anthony Cochi demeure dans la région de Tofino depuis 15 ans. Les deux actrices principales, Camille Felton et Mia Wistaff, sont québécoises et une bonne partie de l'équipe de production venait de la région du tournage et il y avait d'autres gens aussi, un réalisateur qui est bien connu dans la francophonie canadienne, mais qui n'est pas nécessairement un britanno-colombien. Il y a un thème environnemental aussi à tout ça, là, de son histoire, le synopsis que je vous ai mentionné. Donc, la série a essayé de réduire son empreinte carbone avec l'aide d'une conseillère. Puis, si vous vous posez la question, quand est-ce qu'on va pouvoir voir ça? Ça va être sur TV5 Uni en 2026. Il y a un nouveau partenariat inédit avec Crave qui va présenter la série sous-titrée en 2027 sur son service de vidéo continue.
J'imagine sous-titrée dans toutes les langues, incluant l'anglais, là, pour ceux qui voudront la regarder et qui ne parlent pas français.
Exactement.
Ah, c'est génial. Exactement. Julien Caillouette, rédacteur en chef de Franco-Presse, merci beaucoup.
Ça m'a fait plaisir.
Qu'est-ce qui s'est passé le mois passé? Je m'en rappelle plus, j'ai trop consommé. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ma mémoire a tout effacé? Pourquoi t'es toujours là, coincé dans ma tête? Pourquoi t'es toujours là, quand je veux disparaître? Pourquoi t'es toujours là, coincé dans ma tête? Pourquoi t'es toujours là, quand c'est le temps de la fête? Pourquoi t'es toujours là, coincé dans ma tête? Pourquoi t'es toujours là, quand je veux disparaître? J'ai bu toute la bouteille, plus rien n'est pareil. J'attends ton appel entre mes deux oreilles. Le stress en train de me ronger, plus capable de m'en passer. J'essaie de t'ignorer, mais je suis hypnotisé. Sors de ma vie, je suis pas capable de vivre ainsi. Quand je regarde dans le miroir, t'es la seule chose que je suis capable de voir. Partir m'a fait souffrir et ton départ coincé dans mes souvenirs. Pourquoi t'es toujours là, coincé dans ma tête? Pourquoi t'es toujours là, quand je veux disparaître? Pourquoi t'es toujours là, coincé dans ma tête? Pourquoi t'es toujours là, quand c'est le temps de la fête? Pourquoi t'es toujours là, coincé dans ma tête? Pourquoi t'es toujours là, quand je veux disparaître? C'est pas ta faute, y'en avait d'autres. Fallait que tu sautes pour t'en aller. Tu t'es enfui, loin de ma vie. C'est mieux ainsi pour t'oublier. T'es un fantôme sur mes épaules. Une cicatrice qui m'a rendu triste. La dernière pensée avant de me toucher, je voudrais t'oublier pour enfin me libérer. Pourquoi t'es toujours là, coincé dans ma tête? Pourquoi t'es toujours là, quand je veux disparaître? Pourquoi t'es toujours là, coincé dans ma tête? Pourquoi t'es toujours là, quand c'est le temps de la fête? Tu t'en vas toi, t'es toujours là.
Et c'était le groupe Laniche, leur morceau Coincé dans ma tête.
Je vais terminer la lecture de ce texte donc sur Pierre Folliat qui est décédé là, hier à l'âge de 84 ans. Chroniqueur, journaliste à la presse qui, je pense que beaucoup d'entre nous attendions de pouvoir lire hein, la version papier à l'époque de la presse qui n'existe plus, hein, c'est plus en papier maintenant, mais pour voir, pour lire et savourer les textes de Pierre Folliat. Puis j'avoue que je n'étais pas toujours d'accord avec lui, mais c'était toujours plaisant de lire ses textes et voilà, avec cette plume incroyable. Je vais revenir donc sur l'après. Alors, Pierre Folliat venait rarement à la presse. Il préférait travailler chez lui, loin de du tumulte. Malgré ses visites dans la vieille salle de rédaction, on se rappelle que c'était au 750 boulevard Saint-Laurent, ses visites déclenchaient de chaque fois des sourires. Nous étions heureux de le croiser, de le saluer, écrit donc l'auteur de ce texte qui est André Duchesne. Lorsque Marc-François Bernier a publié son essai à l'automne 2015, l'équipe de la section lecture de la presse a demandé à 6 chroniqueurs, Yves Boisvert, Michel Ouimet, Rima Elkhoury, Philippe Quentin, Patrick Lagacé et Nathalie Petrovski, d'écrire quelques mots sur le style Folliat. S'il a utilisé le « je » plus que quiconque, c'était le moins narcissique qu'on ait rencontré, a alors dit Yves Boisvert. Un style faussement familier, mais d'une précision et d'une efficacité foudroyante, a résumé Nathalie Petrovski. Depuis sa retraite, il donnait peu de nouvelles. Il avait tourné la page et était en rentrée dans ses terres. Foglia, celui dont les chroniques nous faisaient sentir si vivant, est mort. Un homme, un père, un fiancé, un ami des chats, un journaliste qui aimait parler de la vie et de tous ses travers, est mort. Souvent imité, son style n'a jamais été égalé. Et c'est tant mieux, mon vieux. Eh bien voilà, c'est le temps de parler de quelques nouvelles concernant notre monde de l'inclusion, passionné de sport au-delà de son handicap, par Cassandra Lebel et Charles-Antoine Boulanger. C'est publié le 20 juillet sur iciradiocanada.ca. Les limitations physiques ne sont plus des excuses pour Mathieu Blais, qui vit avec le syndrome de Crouzon depuis maintenant près de 30 ans. Chaque jour, il s'entraîne en salle, il fait du karaté et il s'est même mis à la course récemment. Il est loin de vouloir abandonner. « Depuis que j'ai commencé, je n'ai jamais arrêté, confie-t-il. Ça m'a permis de me bâtir une grande confiance en moi et une immense carapace aussi. L'enfance de Mathieu n'a pas été des plus faciles. Il a longtemps été intimidé en raison de sa maladie, le syndrome de Crouzon, qui est une maladie rare qui affecte le développement du crâne et du cerveau. À sa naissance, les os de son crâne et de son cerveau, de son visage, se sont soudés ensemble. Au début, à la maternelle, je n'étais pas trop conscient de ce qui se passait, avoue-t-il, mais plus tard, ça a dégénéré. Au primaire, je me faisais juger constamment. Il disait « Ah, regardez, là, les yeux qui lui sortent de la tête ». Sa maladie l'empêchait également de bien entendre, ce qui le limitait aussi dans ses apprentissages qu'il pouvait faire à la maison comme un enfant normal, mais cela aussi a contribué à l'intimidation qu'il a subie. Alors pourtant, Mathieu Blais se dit reconnaissant aujourd'hui d'avoir vécu cette expérience. Au final, je ne leur en veux pas. Ils n'étaient pas conscients de leurs actes, mais c'est aussi grâce à eux que j'ai pu me pousser à ne jamais abandonner. Je me sens bien dans ma peau. Plus rien ne m'arrête, dit-il. Une citation donc de Mathieu Blais. Maintenant, Mathieu n'a qu'un objectif. Il souhaite inspirer les autres et montrer aux gens que les personnes handicapées, il ne faut pas les sous-estimer. Elles sont bien plus fortes que vous le pensez. Un de ses rêves serait de rencontrer son idole, Georges Saint-Pierre. Ce n'est pas comparable, les vies qu'on a vécues, mais lui aussi, il a subi de l'intimidation. Et c'est grâce aux arts martiaux qu'il s'est bâti une carapace. Ça me rejoint. J'ai le temps de vous parler du défi Deux Montagnes SP, qui est de retour pour une cinquième édition, publiée le 22 juillet sur m105.ca. Donc, cinquième édition du défi Montagne SP se tiendra le samedi 16 août au cœur des sentiers de Mont Sutton. L'événement, anciennement connu sous le nom de Défi Vélo de Montagne SP, revient avec une formule bonifiée, misant plus que jamais sur la nature, la solidarité et le dépassement de soi, afin de soutenir les personnes atteintes de la sclérose en plaques. Le Défi Montagne SP, c'est une journée en plein air qui rassemble des personnes de randonnée et de vélo de montagne autour d'un même objectif, transformer des vies. Trois parcours de marche accessibles à tous les niveaux, 3,5, 7 et 9 km, sont proposés dans les sentiers aménagés au parc d'environnement de nature naturel de Sutton. Des courses de vélo aussi, trois distances sont offertes sur les pistes du Mont Sutton. Une journée d'activité donc où les marcheurs et les cyclistes relèvent un défi. L'objectif est de ramasser 110 000 $ pour permettre aux personnes atteintes de la sclérose en plaques de poursuivre leurs efforts et la recherche un peu partout au Québec.
Faut que je reste moi-même, je sais pas je suis qui, donc je fais semblant. Moins j'ai de réponses, plus je vieillis, évidemment. Je regarde dehors les gens qui s'aiment, ont l'air heureux. Moi plus je sais, plus je m'en éloigne, je sais ce que je veux. Je veux arrêter de penser à toi, ce serait mieux. Je veux oublier le son de ta voix, le creux de tes yeux. Je veux arrêter de penser à toi, ce serait mieux. Je veux oublier le son de ta voix, le creux de tes yeux. On s'aime comme des enfants, on se fuit comme des animaux. On reste et s'effondre comme des dominos. J'aurais voulu qu'on dise en face ce qu'on dit dans le dos.
Faut croire que c'est toi mon plus grand défaut. Faut que je reste moi-même, je sais pas je suis qui, donc je fais semblant. Moins j'ai de réponses, plus je vieillis, évidemment. Je regarde dehors les gens qui s'aiment, ont l'air heureux. Moi plus je sais, plus je m'en éloigne, je sais ce que je veux. Je veux arrêter de penser à toi, ce serait mieux. Je veux oublier le son de ta voix, le creux de tes yeux. Je veux arrêter de penser à toi, ce serait mieux. Je veux oublier le son de ta voix, le creux de tes yeux. Je veux juste marcher de façon personne m'attend. On m'a dit que ces choses-là prenaient du temps. Donc j'attends.
C'était Je veux de Freds.
Demandeur d'asile, les roulottes sont de retour, comme au temps du chemin Roxham. Le nombre de migrants qui se présentent à Saint-Bernard-de-la-Colle a monté en flèche depuis les dernières semaines. C'est dans le Journal de Montréal ce matin. Alors, le nombre de demandeurs d'asile est en forte augmentation parce que au point où on a installé des roulottes, comme lors de la crise des migrants de 2022. Selon les chiffres fournis par l'Agence des services frontaliers du Canada, les demandes d'asile effectuées à la colle depuis le début de juillet ont quintuplé par rapport à la même période l'année dernière et depuis le début de l'année. Donc, c'est 10 724 demandes d'asile qui ont été reçues comparativement à 5077 pour la même période en 2024. Les roulottes, donc, sont installées. Elles sont vides présentement, mais elles sont prêtes à prendre, donc, les demandes des personnes qui arrivent. On sait pourquoi, avec tout ce qui se passe présentement au sud de la frontière, avec le retour depuis janvier du président Donald Trump et ses politiques anti-migratoires, bien évidemment. Ça pousse des gens à essayer de fuir le pays et de trouver des endroits plus accueillants. Évidemment, le Canada est conçu et vu comme un pays plus accueillant, bien que les politiques d'immigration ont beaucoup changé depuis les dernières années, et surtout depuis l'arrivée de Mark Carney. Donc, ça sera un dossier à suivre, voir comment les choses vont se dérouler dans ce coin du Québec. C'est le temps pour moi de remercier toute l'équipe qui travaille avec nous. L'équipe, c'est Samuel Badel, qui est notre metteur en onde aujourd'hui et qui nous aide beaucoup à faire que les choses fonctionnent rondement ici. Et puis moi, je m'appelle Denis-Martin Chabot. On a une autre émission, donc, demain, même heure, donc sur Canal M.